Des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consulter votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Et puis les résultats des courses à Marseille. Première course, combinaison gagnante du Quintet Plus, 15, 8, 14, 5 et 6. 15h, 14h et 3 minutes sur France Inter. Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, une histoire de la Belgique. N'ayant pas voulu être hollandais, n'ayant pas été autorisé à devenir français, nous nous sommes résolus à devenir belges. Lucien Outers, le divorce belge. D'histoire. L'histoire de la Belgique a commencé par un opéra. Il y a 175 ans, le 25 août 1830, au théâtre de la Monnaie de Bruxelles, on jouait la muette de Portici d'Aubert lorsque le ténor se mit à chanter quelques paroles du quatrième acte qui mirent le feu aux poudres. Amour sacré de la patrie, rend-nous l'audace et la fierté. À mon pays, je dois la vie, il me devra la liberté. Galvanisé par la révolution qui venait de se produire en France, tout le monde se leva, entonna la Marseillaise, avant de se répandre dans les rues de Bruxelles pour réclamer et obtenir en quelques semaines d'émeutes l'indépendance d'un pays et d'un peuple qui, depuis 175 ans, n'a jamais réussi à devenir une nation. Sire, disait un jour un sénateur socialiste à son roi, vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique des Wallons et des Flamands, mais il n'y a pas de Belges. C'est pourquoi sans doute c'est en français puis en flamand, devant des royalistes et même parfois des républicains, que les rois des Belges prêtent serment devant la constitution d'un des pays les plus petits et les plus divisés du monde.
Le prince royal a prêté le serment constitutionnel. Vive la République !
Je jure d'observer la constitution et les lois du peuple belge. De maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Que Dieu protège la Belgique.
Ik zweer de grondwet en de wetten van het Belgische volk na te leven, 's lands onafhankelijkheid te handhaven en het grondgebied ongeschonden te bewaren.
Patrick Rogers, bonjour.
Bonjour.
Alors, en Belgique, les rois ne sont pas couronnés, ni même sacrés. Ils prêtent serment devant la Constitution, comme le faisait, on vient de l'entendre, le roi Baudouin, cinquième roi d'un pays indépendant.
Dans les deux langues,
175 ans, dans les deux langues. Mm-hmm. Indépendant depuis 175 ans, la Belgique. C'est une histoire que vous rappelez dans un livre, La Belgique, le roman d'un pays. Un pays, Patrick Rogers, quand même, qui avait déjà une histoire avant d'être indépendant en 1830.
Oui, la Belgique est née sur la volonté des nations étrangères et limitrophes, mais évidemment, c'est pas un territoire qui est né du jour au lendemain comme une météorite.
C'est les Romains, d'ailleurs, à l'époque où ils occupaient la Belgique, qui avaient donné son nom à la Belgique.
Oui, la Belgique a eu bien des noms, d'ailleurs, qui se perdent un peu dans la nuit des temps. Elle a surtout été un territoire d'occupation et de champ de bataille de l'Europe, où tout le monde venait un petit peu régler ses comptes sur ce lopin de terre.
Parce qu'il n'y a pas de frontières naturelles, tout simplement.
Il n'y avait pas de frontières naturelles, mais depuis, ils se sont d'ailleurs empressés d'en créer eux-mêmes une à l'intérieur qui est la frontière linguistique. Et donc, au fond, après ça, ce petit pays était occupé par tout le temps ses envahisseurs. Mmh. Les Autrichiens, les Hollandais, les Allemands, les Anglais, les Français, les Portugais, les Espagnols. Mmh. Et jamais, au fond, la Belgique n'a eu d'existence et de conscience propre. Elle était le territoire d'emprunt des autres.
Mmh. Et puis alors, il y a eu une occupation importante qui était l'occupation de Charles Quint. Enfin, c'était l'époque où Charles
Quint... Qui est né à Gand, d'ailleurs, en
1500. Qui est né à Gand, oui. qui a gouverné aussi bien sur l'Empire des Habsbourg que sur l'Espagne, hein, dont tu faisais partie. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'il y a eu une première division, une première séparation entre les 17 provinces unies du Nord, qui sont devenues les Pays-Bas depuis, indépendants, et le Sud, c'est-à-dire l'actuelle Belgique, qui est restée espagnole. Mais alors, cette division n'est pas, comme aujourd'hui, linguistique. linguistique en Belgique. Elle est entre les Hollandais et les Belges, mais elle est religieuse.
Oui, alors ça, c'est une des grandes chances historiques de la Belgique, c'est d'être à la fois, je dirais, topographiquement et géographiquement un pays septentrional, c'est-à-dire du nord, et un pays méridional du sud. Mais c'est vrai que dans le rapport avec la Hollande, il y a là, je dirais, en germe, de manière enquistée, déjà le problème linguistique et le problème flamand, puisqu'au fond, les Hollandais sont des calvinistes, et les Flamands sont plutôt des chrétiens, des catholiques. Et à travers cette différence de philosophie religieuse, va se poser tout le problème de la langue, et certainement une des raisons pour lesquelles va naître l'État belge, effectivement, en 1830.
Alors, 1830, il demande son indépendance, il la réclame vis-à-vis... Alors, il faut rappeler que il y a eu aussi une occupation française pendant la Révolution et l'Empire. La Belgique est devenue département, il y a eu plusieurs départements français.
La Belgique a toujours été un petit peu annexée dans l'esprit des Français comme étant pour eux une sorte de province amie. On dit toujours d'ailleurs les petits Belges.
Alors ça se termine en 1815 avec la chute de l'Empire. À ce moment-là, le congrès de Vienne décide qu'elle fera partie du royaume de Hollande, et c'est contre ce royaume de Hollande et contre ce roi de Hollande, Guillaume Ier, qu'en 1830, eh bien, les Belges se soulèvent, et à l'occasion de tout ça, ça a commencé par ça, il y a un opéra, l'opéra d'Aubert, qui est joué au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles en juillet 1830, en août, pardon, le 25 août 1830, et c'est ce qui va faire obtenir à la Belgique son indépendance.
À nous, à gris, de la patrie, à nous l'honneur et la fierté, à mon pays, à moi la vie, qui va se voir à l'éternité, à nous, à gris, à nous, à gris, à nous, à nous, à la patrie, à nous, à gris, à nous,
et c'est l'opéra qui a mis le feu aux poudres, la muette de Portici d'Homère. Ce qu'on entend a été enregistré au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles en 1930, c'est-à-dire 100 ans après cet événement qui a été la muette de Portici. C'est vraiment qu'un opéra ait pu déclencher une telle émeute.
Mais c'est un opéra composé d'ailleurs par des Français qui compte au fond la révolte des Napolitains contre l'envahisseur espagnol. Et on pourrait dire que c'est par projection, par procuration, que soudain les Belges se disent au fond, nous aussi on aurait peut-être envie d'exister. Et c'est comme ça qu'effectivement, d'un opéra, enfin, il faut dire que la Belgique est née au forceps, c'est aussi une opération, elle est née contre nature, et c'est un accouchement qui ne s'est pas fait sans douleur, mais elle naît d'un opéra, ce qui est magnifique, parce que c'est comme magnifiquement chanteur et splendide que de naître du théâtre, c'est un pays de théâtre aussi. Effectivement, c'est l'insurrection, c'est la révolution, et surtout ce qu'on veut faire, c'est mettre les Hollandais dehors. Donc les Hollandais se réfugient pendant quelques jours dans le parc de Bruxelles, mais ils ne sont pas du tout d'accord sur l'idée du pays éventuel qu'ils voudraient fonder. Les Flamands veulent mettre les Hollandais dehors, les Wallons, eux, espèrent être rattachés à la France, hein, si Napoléon ne perd pas Waterloo, la Wallonie serait peut-être française, et ils se précipitent sur l'hôtel de ville de Bruxelles, et ils hissent un drapeau français, puisqu'il n'y a pas de drapeau belge.
Alors, le roi de Hollande résiste, il va même rester longtemps à Anvers, il se tourne vers le seul pays qui est prêt à l'aider pour empêcher la Belgique de prendre son indépendance, c'est la Russie, tandis que deux autres pays européens importants, la France et l'Angleterre, vont s'entendre pour créer, au fond, la Belgique. Ça se passe à Londres, en 1830. Le premier ministre britannique et un diplomate très célèbre, qui est tout simplement, qui n'est autre que Talleyrand, se rencontrent à Londres pour signer un accord. Talleyrand, qui a 76 ans, c'est d'ailleurs le dernier traité qu'il va signer. Et c'est donc l'Angleterre et la France qui vont décider, ce jour-là, de l'avenir de la Belgique.
Unless monsieur de Talleyrand is late. Monsieur, notre entente, que je veux mieux que cordiale encore, doit avoir pour résultat la signature immédiate du protocole numéro 11 qui reconnaît l'inviolabilité de la Belgique et sa neutralité. L'insurrection de Varsovie oblige le tsar à retenir ses troupes en Pologne. Eh bien, profitons-en pour reconnaître immédiatement et officiellement la neutralité de la Belgique et son indépendance.
Soit, yes, mais les Hollandais refusant d'évacuer Anvers,
Comment entendez-vous concilier le principe de non-intervention et la nécessité d'intervenir?
Non-intervention est un mot métaphysique et politique qui signifie à peu près la même chose que intervention.
Et c'est bien sûr la Brabanson, l'hymne national belge. On a entendu auparavant Patrick Rodgers, vous l'avez reconnu, vers Sacha Guitry dans le rôle de Talleyrand, décidant avec les Anglais que la Belgique sera indépendante et qu'elle sera neutre.
On se rend compte qu'on parle déjà toutes les langues en Belgique. Hein. C'est un melting pot linguistique.
Mais c'est le fruit donc d'une entente franco-britannique. Alors reste maintenant à lui trouver un roi. Parce qu'en fait, les Belges décident que leur pays indépendant sera un royaume.
Oui, alors donc effectivement, c'est un état tampon. On décide que la Belgique va exister, que c'est un état d'être qu'elle n'a pas réellement voulu. C'est négocié au fond sur son dos par les puissances étrangères. Elle décide de ne point être une république et donc d'être une monarchie. Mais alors, il faut quand même trouver un roi, et c'est pas de la tarte. Il faut en trouver un, et les candidats ne se bousculent pas au portillon.
Oui, parce qu'on avait envisagé Louis-Philippe, qui vient d'arriver au pouvoir. Hein, la révolution de 1830, elle s'est produite d'abord en France, avant la Belgique. Louis-Philippe, on envisage son fils. Et puis alors là, les Anglais se méfient. En fait, c'est un accord franco-anglais, parce que chacun se méfie.
Tout le monde se regarde en chaîne faïence. Ouais.
Et finalement, on se tourne vers un prince allemand, qui est Léopold de Saxe-Cobourg. Saxe-Cobourg-Gotha, pardon, premier des...
Qui monte sur le trône et qui dit « je ne suis pas belge ».
Ça commence mal. Et surtout, qui devient roi des Belges. Hein. Il faut rappeler que le roi de Belgique, enfin le roi des Belges, justement, c'est pas le roi de Belgique.
Non, alors c'est très curieux cette dénomination, parce qu'au fond, il n'est pas seulement, ou il n'est pas le souverain d'un pays, mais il est le monarque de peut-être deux peuples réunis en un, qui serait justement l'entité des Belges. C'est son rôle, hein, c'est d'essayer d'unifier la Belgique comme une entité nationale et de respecter l'indépendance et la neutralité du territoire qui était proclamé tout à l'heure.
Parce que déjà, si vous dites ça, Patrick Rodgers, ça veut dire que déjà, les Belges ne se sentent pas, les Flamands et les Wallons ne se sentent pas comme appartenant à la même nation.
Non, ce sont des rouscailleurs, des rouspéteurs, des ronchonneurs qui vivent chacun dans leur coin et qui n'ont jamais eu l'idée qu'on les mette en ménage.
Avec un problème linguistique qui se pose dès le début aussi.
Ils parlent pas la même langue, ils pensent pas les mêmes choses, ils n'ont pas le même goût de la vie. Et pourtant, je pense que profondément, historiquement, ils sont complémentaires. Et c'est ça la force de la Belgique, c'est d'avoir deux pays en un, c'est-à-dire deux richesses qui n'en font qu'une.
Le seul Belge, c'est peut-être au fond le roi, hein, Léopold Ier.
Non, donc, il est étranger.
Il est étranger en plus.
Il devient son propre pays, oui.
Et puis, il va gouverner Léopold Ier la Belgique pendant 34 ans, jusqu'à sa mort en 1865, date à laquelle lui succède son fils Léopold II, avec lequel ce petit pays...
Mais on dit que c'est un roi sans pouvoir, c'est quand même pas tout à fait
c'est
vrai. Parce que on dit que le roi n'a pas de pouvoir, que ce serait comme une sorte de potiche. C'est vrai que la Belgique va créer des gouvernements, va créer des hommes politiques, mais on peut quand même constater que l'unité du royaume, elle passe par le roi. Il est garant de l'unité du pays et de son indépendance. En fait, le pouvoir suprême, c'est quand même celui-là. C'est de maintenir la Belgique en vie.
Parce qu'on dit qu'il gouverne, mais parce qu'en fait, c'est un peu une monarchie constitutionnelle à l'anglaise qui a été mise en place.
Oui, c'est vrai, mais on va se rendre compte que c'est subliminal, hein, et qu'au fil du temps, le pouvoir des rois est beaucoup plus prégnant qu'on ne le pense.
Donc, à la tête de ce royaume, premier roi, Léopold Ier, puis...
Roi de métier.
Roi de métier.
Car en Belgique, être roi est un métier.
Bon. Et puis alors, il y aura son fils, à sa mort en 1865, c'est Léopold II qui devient roi des Belges. Et alors surtout qu'il va faire de ce petit pays un immense pays avec une colonie africaine 20 fois plus grande que lui, le Congo.
80 fois.
Le Congo qui va faire l'orgueil de la Belgique pendant 75 ans jusqu'à la fin des années 50, quand le pavillon du Congo était le clou de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958.
Ceux qui ont organisé cette section du Congo n'ont pas voulu se contenter d'une simple et froide description. Ils ont voulu montrer sur le vif l'activité de nos territoires d'outre-mer et l'évolution remarquable qui s'y produit. J'aurai sans doute le temps de vous dire qu'un palais, celui des missions catholiques, met en lumière dans cette importante section du Congo l'œuvre civilisatrice des missionnaires et qui matérialise leur action aux yeux du visiteur. Sans doute entendez-vous les tam-tams qui qui annonce le début de la prestation des troubadours du roi Baudouin. Les troubadours du roi Baudouin qui ont tenu à être ici devant ce palais gouvernemental du Congo au moment où allait passer le souverain.
Et c'est donc l'ambiance à Bruxelles, au pavillon du Congo en 1958, où se trouvait Baudouin, 75 ans après que le Congo soit devenu, non pas tout à fait une colonie belge au début, celui qui en a fait sa colonie personnelle, en quelque sorte, c'est Léopold II, mais c'était pas une colonie belge au début.
Non, il l'a acquis sur sa propre cassette. Il faut dire que si Léopold Ier était un roi austère, assez froid, peu sympathique, que sa femme d'ailleurs, la fille du roi Louis-Philippe, considère comme n'importe quel homme qui passe dans la rue, Léopold II, lui, est un personnage totalement atypique. On l'a appelé le géant dans une cave. Il a une grande barbe, il boite, il déteste les Belges, et il voit grand. Il voit grand. Et ça, alors là, c'est pas l'habitude dans ce petit pays. Et effectivement, il va agrandir le petit pays des petits Belges. Et il va leur donner cette colonie extraordinaire. Il voit non seulement grand, mais il voit loin. Et effectivement, il fait de la casse hein, quand il conquiert le Congo, quand il se l'achète comme une propriété privée, sur sa cassette personnelle, on dit d'ailleurs qu'il se ruine et qu'il élime ses costumes pour pouvoir s'offrir ça, mais grâce au Congo belge, eh bien la Belgique va connaître une prospérité absolument stupéfiante pendant près d'un siècle, elle va devenir une des nations les plus riches d'Europe et du monde.
Il y a les mines du Congo, etc.
Il y a l'uranium, il y a l'or.
Et puis alors, il voit grand, vous le disiez Patrick Rogers, il voit grand aussi dans tous les domaines, y compris sur le plan architectural. Il reconstruit en quelque sorte Bruxelles avec des monuments absolument fous.
Inspirés des grands monuments français.
Il a la folie des grandeurs. C'est un roi bâtisseur, mais qui a la folie des grandeurs.
Oui, mais la Belgique au départ n'est de rien. C'est un pays né de nulle part. On pourrait presque dire que c'est un trou perdu. Bruxelles est une ville de province, si pas un bled de campagne. Et lui, il décide d'abord de tracer des grandes allées, de construire le palais de justice, de construire des arcs de triomphe, de faire respirer la ville, de la doter de grands parcs, et il dote cette ville provinciale d'une architecture qui en fait encore une grande ville aujourd'hui, et il est vraiment un précurseur, parce qu'il a une vista, une vision totalement stupéfiante par rapport à un pays qui, lui, ne pense jamais à son devenir.
Dans votre livre, vous montrez ce palais de justice absolument gigantesque.
Terrifiant, pachydermique, éléphantesque.
Construit par un mégalo.
Qui, à Bruxelles, prend d'ailleurs pour le palais royal.
C'est construit par un homme qui est un peu mégalo, Joseph Poulard, qui est mort, je crois, fou d'ailleurs, en 1919. Absolument. Ça a été construit pendant, ça a duré 17 ans, la construction de ce palais de justice. Mais il est à la mesure aussi de ce qui est devenu une vraie puissance industrielle européenne. C'est considérable à l'époque, là, à la fin du 19e, la Belgique, Patrick Rogers.
Il fait faire quasiment, on pourrait dire, un bond de 3 siècles en avant. Il est tellement génial. Alors, bien sûr, il y a eu bien des choses abjectes qui sont passées. Et il y a des dizaines et des centaines de livres et de pièces de théâtre qui condamnent Léopold II. Mais dans le parcours d'un petit pays comme ça, il faut quand même voir ce bon magistral qu'il a fait en avant. Ça a quand même été un grand roi, ce que les Belges ne lui ont pas pardonné, mais il a assuré non seulement une paix économique et une paix sociale, mais il a assuré, grâce au bien-être qu'il a assuré à chacun, une paix linguistique qui a duré très longtemps.
Et quatrième puissance commerciale du monde, grâce notamment au port d'Anvers, il y a grande puissance.
Il fait les grandes villes balnéaires, comme Ostende. Comme Spa, qui sont à ce moment-là rivales, par exemple, de Monaco ou de Biarritz.
Alors, une prospérité qui ne profite pas à l'immense majorité quand même des Belges, vous le rappelez, Patrick Rogers, exploitée par une bourgeoisie d'affaires sans scrupules.
Les industriels belges doivent faire comme les Anglais, réduire au maximum les coûts de fabrication pour avoir des prix compétitifs.
En réduisant encore les salaires, c'est impossible.
Mais si, c'est possible. La preuve, je l'ai payé 1,60 francs. Pour 14 heures de travail.
Avec le kilo de pain à 60 centimes et le sac de charbon à 1,50 francs. Oui, mais autant les payer en patates, comme nos pères.
Mais c'était pas si bête que ça.
Vous êtes des monstres.
Nous, les libéraux, nous sommes concernés par le sort de nos ouvriers, monsieur Wust, qui vivent dans la misère la plus totale.
La moitié des usines du pays sont en grève. Et cette agitation est telle que c'est un miracle si Alost échappe à cette révolution.
Et
essai donc international, bien sûr, conçu comme chacun sait, enfin écrite comme chacun sait, dont les paroles sont écrites comme chacun sait par un Français, Eugène Potier, mais ce que l'on sait moins,
composé
c'est
par
que
un Belge.
La musique a été composée par un Belge de Gand, hein, qui s'appelait Père de Guetter.
Absolument, mais les Belges la ramènent pas quand ils font des choses surprenantes, ouais. Et qui font partie du patrimoine universel. Ouais.
Oui, parce qu'elle a fait le tour du monde, hein, cette chanson. Mmh. Alors chantée, bien sûr, par les socialistes belges, un parti socialiste qui se crée à la fin du 19e siècle et qui profite du mécontentement, on l'a entendu et on le comprend, d'une classe ouvrière qui est totalement écrasée par un patronat d'un cynisme ahurissant. Si elle est très en avance sur le plan économique, industriel, la Belgique est très en retard à cette époque sur le plan social.
Ben, le monde ne s'est pas fait en un jour, alors effectivement, ce grand bond en avant, il faut bien que après ça, le quotidien suive. Alors c'est vrai qu'on dit que le Belge est un peuple très réaliste, qui a une brique dans le ventre, les yeux dans le ciel et les pieds sur terre. C'est un pays qui a le sens du profit. Mais ce profit est, on pourrait dire, d'une certaine manière, confisqué par une classe sociale qui est effectivement la classe dominante, c'est-à-dire la classe bourgeoise, et dans ce cas-là, c'est la classe francophone. Et donc à la fois les ouvriers, d'une part en Wallonie, mais aussi en Flandre, et puis certainement la paysannerie, comme on disait à l'époque, ceux-là sont complètement dominés, n'ont pas droit de citer, n'ont pas droit de vote, n'ont même presque pas le droit de se nourrir, et ils n'ont pas le droit de parler. La langue flamande n'existe pas, elle est même interdite dans les cours de récréation en Flandre.
Mais aussi, alors, ce dont profite un parti, il y avait deux grands partis qui étaient les catholiques et les libéraux.
Ils sont nés les uns après les autres, voilà. Libéraux, socialistes
mais
et les catholiques.
Mais les socialistes en profitent, se développent, et alors multiplient les manifestations à la fin du 19e, notamment pour réclamer aussi quelque chose que la Belgique n'a pas encore, qui est le suffrage universel. C'est un grand combat à l'époque, Patrick Rodgers.
Ben, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut mettre un État sur pied, il faut mettre une nation sur pied, la monarchie ne suffit pas, et effectivement, il y a des combats sociaux qui se mettent en place. On crée la bourse de Seuss, devant laquelle vont d'ailleurs se passer en récurrence, par flot, par vague, d'abord toutes les manifestations belges et puis toutes celles de l'Europe. Et c'est vrai que le Belge, qui est un rouspéteur et un contestataire, va très 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 bien se doter de lois sociales fortes qui en font encore aujourd'hui un des pays les plus modernes d'Europe sur ce terrain.
Il y a une chose sur laquelle vous insistez beaucoup et dont j'aimerais qu'on parle avec vous, Patrick Rodgers, c'est l'importance considérable de l'art, de la culture dans l'histoire de la Belgique. Mais ça appartient à une très ancienne tradition. Il faut rappeler quand même que à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, avec les Italiens, les Belges sont sans doute les plus grands peintres du monde.
Mais c'est lumineux, c'est saisissant, c'est admirable et c'est éclairant, parce qu'effectivement, si la Belgique n'est de rien, elle a quand même donné bien avant déjà, avec les primitifs flamands, Van Eyck par exemple, elle a donné Rubens.
Inventeur de l'huile de la peinture
oui,
à l'huile.
C'est ce qu'on dit, oui. Enfin, Rubens, qui est un immense peintre universel, écuméniste, grand savant, grand chercheur, elle a donné des grands ingénieurs.
Bruegel aussi.
Bruegel, bien sûr. Elle a donné aussi des gens comme Vézal ou comme Mercator, le grand géographe. Et elle a toujours été une terre d'exploration de la pensée, de l'imaginaire et de la beauté. Ça, c'est assez saisissant. Je considère un petit peu que les Belges n'aiment pas beaucoup leur pays, n'aiment pas énormément l'art. Et pourtant, ce pays, petit comme un mouchoir de poche, produit des génies à l'appel, même si, hélas, souvent, elle les expatrie. Il y a une véritable hémorragie de la création en Belgique. Mais elle continue, y compris à travers un très grand peintre comme Wiertz, qui meurt d'ailleurs en...
Au 19e, oui, ça c'est phénoménal.
Il meurt en 1865, comme le roi Léopold
Ier.
Et il a un musée, il donne à la nation belge son propre musée avec ses œuvres à vie. Et aujourd'hui, le musée Wiertz, qui se trouve rue Vautier, non pas rue Wiertz, est juste à côté du Parlement européen. Et lui, il était un peu comme Léopold II, c'est-à-dire un peintre trop grand pour ce petit pays, mais ses peintres extraordinaires, on les retrouve encore aujourd'hui à travers Jan Fabre, par exemple, à travers Panamarenko, ou Wim Delvoye. Ou Pierre Alechinski. C'est-à-dire que toujours, et Magritte, bien sûr, les grands surréalistes, et puis les grands symbolistes, Spilliard, de Gouffe-Doninck, Knopf qui fait Une ville abandonnée, c'est-à-dire le lieu de la Belgique comme un territoire du songe et de l'imaginaire, comme si c'était un pays non seulement inventé de toutes pièces, mais inventé par lui-même, et que au fond, les artistes rendraient sublime et inoubliable.
Il n'y a pas que dans le domaine de la peinture que la Belgique a donné des hommes importants ou des femmes importantes.
Mais
il y a la littérature, même avant lui, qui joue un grand rôle également dans l'histoire, telle que vous la racontez, l'histoire de la Belgique. Patrick Rogers.
Là, il y a aussi ce paradoxe, c'est que les grands écrivains flamands, qui sont d'ailleurs proches de la peinture dans leurs écrits, comme Maeterlinck, comme Verhaeren, Maeterlinck, seul prix Nobel belge en 1911, ou Rodenbach, qui va créer Bruges la Morte, qu'il écrit d'ailleurs d'abord dans le Figaro, sont tous des gantois, éduqués au collège Sainte-Barbe, donc en Flandre, mais ils parlent tous français. Et ils font tous leur carrière en France, comme Rops, par exemple. Et donc, effectivement, ils viennent de Flandre, et ils inventent une Flandre en français. Et là se pose quand même déjà le problème réellement de la langue. La langue flamande n'est pas parlée, elle est tue, elle n'existe pas. La langue française n'est pas dite, elle est, je dirais, dans la rigole de la France. Et la langue belge n'existe pas. Pour moi, ceux qui sont les deux grands inventeurs de langue belge, c'est James Ensor, qui invente une langue cacophonique, une langue logoréique, une langue d'insulte, un peu comme celle du capitaine Haddock, et puis la langue géniale du sublime Henri Michaux, publié dans la Pléiade, comme Siménon, qui est un génie universel, aussi important que Beckett ou Bacon ou Dubuffet, et qui invente une langue qui n'existe pas et qui, lui, ne se dit jamais belge. Mmh.
Mais vous avez cité le capitaine Haddock, il y a aussi, bien sûr, la bande dessinée.
Oui, hein, ou les Schtroumpfs.
Il faut être Schtroumpf. Tintin, surtout.
Hein, oui, et puis Tintin, bien sûr.
Hein, ça, c'est vraiment, c'est assez extraordinaire. On a l'impression qu'il y a une espèce de compensation par l'art, par la littérature, pas même par la bande dessinée.
Oui, mais...
de la part des Belges, d'être aussi productif.
Oui, mais en même temps, Tintin, n'habite pas, enfin il habite à Bruxelles, une rue qui n'existe pas, il revient à Bruxelles pour s'en aller, il se brosse une seule fois les dents, il écrit un seul article dans toute sa vie, et au fond il n'est belge que par procuration, c'est ça qui est très curieux, il est transparent comme les Michaud, il est transparent comme l'est le personnage de Magritte, et il est quasiment transparent comme le costume en scène de Jacques Brel.
Mais avec lui, en fait, on est au XXe siècle, Patrick Rogers, un siècle dont nous parlerons demain avec vous dans la deuxième partie de cette histoire de la Belgique. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de ce livre, La Belgique, le roman d'un pays, avec une grande importance que vous accordez, je viens de le dire, à la culture. Un livre qui vient d'être publié chez Gallimard en collection Découverte. Vous avez également écrit Le mal du pays, autobiographie de la Belgique, qui vient de paraître en poche chez Poinceuil. À lire également La Belgique hier et aujourd'hui, un Que sais-je, écrit par Georges-Henri Dumont. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le diable boiteux de Sacha Guitry et Danse de Steen Konings, ainsi qu'une archive pâtée de 1950, disponible en vidéo chez Montparnasse Éditions. Collection, le journal de votre année. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrick Henry, Sandrine Laurent, Claire Destacan, Claire Tesser, Cédric-Joseph Julien et à notre réalisatrice Anne Kobilac.